Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous avez une bonne nouvelle pour notre collègue Alain Finkielkraut.
Oui, je souhaite informer notre académicien maison que l'essayiste Paul Berman vient de publier sur le site Tablette un long plaidoyer en sa faveur sous le titre « An enemy of the people ». On connaît Paul Berman en France où deux de ses essais ont paru dans notre langue, « Les habits neufs de la terreur », une méditation sur le terrorisme islamiste, et « Cours plus vite, camarade », qui était une histoire intellectuelle de la génération 68 en Europe, à laquelle il appartient lui-même. Quant à Tablette, c'est le principal site intellectuel juif aux États-Unis. Alors ce qui a provoqué la montée au créneau de Paul Berman, c'est d'avoir visionné la fameuse vidéo où l'on voit Alain Finkielkraut se faire agresser verbalement en pleine rue par des gilets jaunes qui lui crient « Elle est à nous la France !» et « Sale sioniste retourne en Israël !» C'est d'autant plus atterrant, écrit Berman, que Finkielkraut a été l'un des rares intellectuels français à soutenir ce mouvement et que, s'il a constamment soutenu le droit à l'existence d'Israël, il a toujours sévèrement critiqué les implantations dans les territoires occupés. Émile Zola a dit que l'antisémitisme était une imbécilité. Et bien, dans le cadre des injures adressées ce jour-là à Finkielkraut, il entrait plusieurs sortes de bêtises antisémites. Un antisémitisme de gauche, mêlant une protestation socio-économique au racisme. Un antisémitisme populiste, le peuple contre les juifs. Un antisémitisme islamiste, le plus véhément des agresseurs appartenait manifestement à cette mouvance. Mais l'essentiel est ailleurs. Pèse sur Alain Finkielkraut le soupçon de nourrir de sombres pensées réactionnaires, écrit Berman. Or, des écrivains tels que Michel Houellebecq, Pascal Bruckner ou Georges Bensoussan savent d'expérience que de tels soupçons peuvent dorénavant vous conduire devant les tribunaux. Je cite « La multiplication de ces procès renforce en France l'impression que la vie intellectuelle se tient au bord de l'inadmissible, que la littérature est voisine du crime et que certainement certains de ces intellectuels sont des ennemis du peuple et devraient être punis. » Dans les médias intellectuels, je cite toujours, il est parfois assumé qu'une gigantesque bataille idéologique entre progressistes et réactionnaires constitue la vérité ultime de la vie intellectuelle, poursuit Berman.
Brice, on reproche parfois à Alain Finkielkraut en France de 1968 d'avoir dérivé vers la droite.
Oui, et dans son dernier livre, le gauchiste israélien Shlomo Sand écrit de Finkielkraut, je cite, « En vérité, ce n'est pas encore le fascisme ». Cela a dû faire un drôle d'effet à un écrivain qui a pu contempler le numéro tatoué par les SS sur le bras de son père et dont les grands-parents ont disparu à Auschwitz. Finkielkraut l'a dit et l'a répété, s'il se sentait des sympathies pour la droite politique, eh bien mon Dieu, il n'en ferait pas mystère. Mais quel sens cela a-t-il de vouloir rendre compte de son œuvre avec cet unique critère ? Lorsqu'il traite des relations érotiques hommes-femmes en littérature, des romans de Milan Kundera ou des intrigues de Philippe Roth, est-il de gauche ou de droite ? Le président Macron s'est indigné de l'agression dont Finkielkraut a été victime en le qualifiant d'homme de lettres. Et c'est bien vu, il s'agit d'un homme de lettres et non d'un idéologue ni d'un politicien. En tout cas, dit Berman, si être de gauche en France, c'est persister à considérer que les maux sociaux peuvent être traités parce qu'ils ont leur origine dans l'histoire et non dans la nature humaine, si être de gauche en France, c'est préférer l'histoire de la Révolution de 89 dans la version de Michelet et non celle de Burke, alors pas de doute, Finkielkraut est resté à gauche. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut remonter à l'affaire Dreyfus pour comprendre l'originalité de l'œuvre de Finkielkraut. Face au capitaine Dreyfus, il y avait quatre positions. Celle de la droite consistait à refuser les preuves et les faits au nom de l'instinct patriotique. L'amour de l'armée qui défendait le sol et le sang de la patrie devait primer sur toute autre considération. Celle des marxistes, et en particulier de Karl Liebknecht, était de considérer qu'il s'agissait là d'une affaire entre bourgeois. La quête de la vérité était ramenée par eux à une politique des identités sociales. Les prolétaires avaient raison, les bourgeois tort. La gauche républicaine, avec Zola, appelait à s'en tenir aux faits, à faire preuve de logique et de rationalité. Mais il y avait une quatrième position, celle de Peggy. Peggy reconnaissait l'innocence de Dreyfus, mais ne s'identifiait pas au rationalisme cérébral de Zola et de ses amis. Son culte des émotions, son patriotisme mystique, le rapprochait de la droite. Mais ce même amour de la légende française en a fait un Dreyfusard. Eh bien, Finkielkraut, dit Berman, est l'héritier de Peggy, auquel d'ailleurs il a consacré un livre. Les intellectuels de gauche patentés sont, dit-il, congelés dans une idéologie qui remonte au marxisme des années 1890. Ils ont substitué à la contradiction exploiteur-exploité la nouvelle version européen blanc versus personne venue du tiers-monde. Alain Finkielkraut, fidèle à Peggy, dit que les véritables victimes des crimes racistes dans la France d'aujourd'hui, ce sont encore des juifs et non pas les musulmans, comme tant d'intellectuels de gauche aimeraient le faire croire. Et c'est justement cela qu'on lui reproche.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.